les femmes dans le monde musulman, mais aussi dans le monde arabe, elles gagnent autorité dans le moment dans lequel elles gagnent la parole. À partir du XXe siècle, les femmes arabes ont commencé à écrire. Elles écrivaient avant, mais l'histoire de la littérature arabe a été écrite par des hommes, alors il n'y avait pas de femmes, il y avait très peu. Mais quand elles ont commencé à écrire, à se décrire, à décrire ses propres sentiments, les problèmes et tout ça, alors dans ce moment-là, elles gagnent autorité.
Est-ce que vous avez des exemples de femmes dans le monde musulman aujourd'hui qui ont une autorité reconnue, acceptée ?
Et la plupart sont des activistes. Elles ne sont pas des théologiens, des académiciens, des politiciens. Là, bon, il y a encore beaucoup de choses à faire là. Mais je fais l'exemple toujours de l'Arabie saoudite. Et il y a quelques mois, le roi a choisi 30 femmes dans le Parlement, le Shura saoudienne. Mais ces femmes-là sont des objets. Elles sont là pour la presse internationale. Mais qu'est-ce qu'on a en Arabie saoudite ? Ce sont des activistes très forts. Et on comprend qu'ils sont très forts parce qu'ils sont un problème. Ils viennent toujours arrêter. Et il y a quelques jours, la condamnation de deux activistes saoudiennes, Wajeh Al-Huaydar et Fawzia Al-Ayouni, qui ont été condamnés à 7 ans de prison, seulement pourquoi ils avaient aidé une femme canadienne à sortir de l'Arabie saoudite. Les femmes dans le Parlement sont là comme objets, mais les femmes sujets sont un problème, sont à combattre par les hommes. La société saoudienne est une société où les femmes ne sont pas encore personnes. Et c'est la même chose en Tunisie. En Tunisie, on a eu dans les dernières élections les partis islamistes qui ont utilisé la femme dans les listes, imposant aussi des partis islamistes comme Ennahda. Ils ont posé dans les listes des femmes pawalées. Et c'était très intelligent. C'était un message très clair pour la presse en disant, voyez, on n'impose pas le voile, on a mis dans notre liste des femmes sans le voile. Mais quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont essayé d'introduire à travers les femmes, pas l'égalité entre hommes et femmes, mais la complémentarité. Et c'est tout à fait un conseil islamiste. Alors je crois que maintenant, le sujet fort sont les activistes tunisiennes, marocaines, égyptiennes, saoudiennes, koweïtiennes, qu'ils sont en train de créer un noyau entre eux. On a des organisations, des associations internationales. Ça commence vraiment. Et maintenant, le problème, c'est de notre parti. Il faut les écouter parce qu'elles sont en train de parler, d'agir. Mais maintenant, l'Occident doit comprendre que les droits des femmes sont des droits de l'homme et il n'y a pas de l'économie, il n'y a pas des affaires, il n'y a pas de business qui peut effacer les droits des femmes.
Que demandent ces femmes ? Quelles sont leurs principales revendications ?
Et chaque pays, c'est différent. Bien sûr, la femme tunisienne, ce n'est pas la femme libanaise. La femme libanaise, ce n'est pas la femme soudienne. Alors, chaque pays a des différents objectifs. Alors, en Tunisie, maintenant, l'objectif, c'est drôle, mais c'est maintenir le passé. C'est maintenir le code du statut personnel du 1996, maintenir que dans la Constitution, on a la femme égale à l'homme et pas complémentaire. En Arabie saoudite, la bataille, maintenant, c'est le permis de conduire. La bataille a commencé il y a quelques années et a été commencée par une des deux activistes qui vient d'être condamnée, Wajeh Al-Huaydar. Je suis en contact avec elle et quand je lui ai demandé, mais écoute, il y a beaucoup de problèmes en Arabie saoudite, surtout pour les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire le permis de conduire ? Elle m'a répondu très clairement, on commence avec la voiture et après on gagnera le pouvoir. Alors, chaque pays a une bataille différente. Et il y a des niveaux des activistes, il y a des activistes au niveau social, il y a des activistes au niveau religieux. Et je crois que l'expression plus claire a été prononcée il y a quelques années aux Nations Unies à Genève par Asma Jahangir. Elle était le rapporteur des Nations Unies pour les questions de femmes et religion d'origine pakistanaise. Et elle a commencé en disant, écoutez, on doit commencer à percevoir les droits de la femme, pas comme droits de la femme en chrétienté, pas les droits de la femme dans l'islam, pas comme les droits de la femme dans le judaïsme, mais comme droits de la femme comme être humaine, des droits universels qui sont pour la femme et pour l'homme.